RCF. Bonjour à toutes et à tous. Depuis le début du mois de mai, nous sommes rentrés dans le joli mois de l'Europe, puisque le 9 mai prochain, nous fêterons l'Europe, car vous ne le savez peut-être pas, mais l'Europe a sa fête comme la France a le 14 juillet, une date qui très souvent passe bien inaperçue puisqu'elle est juste derrière le 8 mai, qui marque une grande date de l'histoire européenne qui est la fin des conflits en Europe de la Seconde Guerre mondiale et aussi à l'occasion mon anniversaire. Mais revenons-en à cette date du 9 mai, une date symbolique pour les férus d'histoire européenne, mais bien peu connue par le grand public. D'ailleurs, je vous pose la question et je vous laisse quelques secondes. Savez-vous à quoi correspond cette date du 9 mai ? Et oui, je le devinais, le 9 mai, vous ne savez pas que ça correspond à la commémoration du discours de ce que l'on appelle le premier texte fondateur de l'Europe, prononcé par Robert Schuman dans les salons de l'horloge au Quai d'Orsay en 1950. Et le choix de cette date par l'Union européenne montre bien toute la difficulté que nous avons en Europe à faire unité, à faire communauté. Car qui a envie de faire communauté autour d'un discours, un discours qui, même si aujourd'hui est symbolique et considéré comme un des textes fondateur de l'Europe, n'en demeure pas moins loin derrière un serment du jeu de paume, une déclaration de la Constitution américaine, qui sont des textes qui, dans l'histoire, ont été marquants du fait qu'ils faisaient unanimité, en tout cas des participants, mais aussi communauté. Là, on se situe dans un discours très marquant, certes, mais qui, au demeurant, ne fait ni unité ni communauté. Alors, il ne nous reste plus qu'à choisir une date plus marquante de notre histoire européenne. Alors, moi, j'avais bien pensé au 11 juillet, date de Saint-Benoît, le fondateur des universités en Europe. Mais j'ai peur que ce soit un peu clivant parce qu'il y a marqué Saint devant. Alors, il va falloir trouver une autre date qui fasse plus consensus, qui ne froisse pas les minorités, qui puisse être acceptée par l'ensemble des courants religieux et philosophiques, qui soit inclusif, qui soit dans un esprit laïque, une date qui ne marque pas non plus une grande victoire européenne venant froisser ceux qui auraient été vaincus dans l'histoire. Alors, vous allez me dire que tout ça, c'est bien complexe et je dois vous avouer qu'après moult réflexions, eh bien, je me suis rangé aux côtés de l'Union européenne. Le 9 mai, c'est parfait, c'est neutre, c'est acceptable, ça fait pas communauté ni unité, mais on peut fêter l'Europe. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions en ce samedi 12h-13h sur RCF. On va parler cette semaine d'Europe, vous l'avez compris, puisque nous sommes dans ce mois de l'Europe, ce joli mois de l'Europe, comme les appellent les outils de communication des institutions européennes. Et le 9 mai prochain, eh bien, nous célébrerons le discours du Salon de l'Horloge prononcé par Robert Schuman en 1950. Voilà, je pense que maintenant, vous l'avez bien en tête. On va parler d'Europe à trois niveaux. On va parler d'un prix, le prix de la Fondation Hippocrène, qui a été décerné à un collège, le collège des Colibères, à Saint-Michel-de-Lerme en Vendée, un prix qui récompense une initiative européenne de collèges qui se mettent en contact les uns avec les autres. Et là, c'est une initiative qui tourne autour du sport en Europe. Ce sera notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Gaël Martin. Vous la découvrirez d'ici quelques instants. Le dossier de l'écho des solutions, lui, va être consacré à l'année européenne des compétences. Trois invités qui se succèdent à mon micro. On n'a pas réussi à les mettre tous autour de la table, donc on est allé les interviewer les uns après les autres, avec en particulier Madame Drezet-Humez, qui est la représentante de l'Union européenne en France, Michel Catala, professeur des universités, qui est à l'origine d'un consortium d'écoles et qui s'appelle Alliance Europa, pour mieux faire connaître l'Europe et faire travailler des chercheurs sur la question européenne, et puis Philippe Kultkerk, qui est le directeur de l'IFREMER et qui est au cœur des politiques européennes de la mer et des océans. Ils seront nos invités du dossier de l'écho des solutions. Et puis on terminera avec les 7 minutes pour changer le monde. Je vous emmènerai découvrir un mouvement. C'est le mouvement des jeunes Européens qui sont peut-être finalement eux aussi les plus impactés par cette question de mobilité au sein de l'Union Européenne. Et puis bien sûr, on retrouvera Pierre Collignon. Maxime Dupont a pris des vacances puisque ce sont les vacances à Paris. Donc nous n'aurons pas de chronique écho avec Maxime, mais je vous propose, comme toutes les semaines, de commencer avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Gaël Martin.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Et notre invité éco de cette semaine, qui n'est pas économique, mais qui va faire éco avec un H cette semaine, c'est pour vous parler du Grand Prix de la Fondation Hippocrène qui a été remis au Collège des Colibères à Saint-Michel en Lerme, en Vendée. Et je suis avec un des deux professeurs qui a créé ce projet hein, qui s'appelle, si je ne m'abuse, Live European Olympic, c'est ça si... Gaël Martin, c'est ça hein.
Ouais, alors pas du tout. Let's Live the Olympic Dream Together.
Let's live to the Olympic dream together. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. En tout cas, on va parler de ce beau projet, un projet qui fait écho justement aux Jeux Olympiques qui vont arriver en France en 2024. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce projet. On sait que la Fondation Hippocrène récompense chaque année des collèges, des enseignants, des équipes pédagogiques qui travaillent à mettre en place des dynamiques de relations européennes. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Comment est-il né exactement, Gaël Martin ?
Alors, ce projet, il est né parce qu'on avait envie de faire un projet européen de plus grande envergure et que les JO approchaient. Donc, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de pouvoir faire quelque chose avec un plus grand nombre d'élèves. Mmh. Parce que le sport, c'est quand même assez propice à ça.
Bien
et
sûr.
Donc, on a lancé un appel voilà, sur la plateforme eTwinning pour voir qui avait envie de travailler avec nous. Et on a eu plein de réponses. Mm-hmm. Et on est finalement au total 6 écoles européennes. Donc, on a 5 partenaires voilà, un petit peu partout, puisque il y a un partenaire danois, un partenaire espagnol, des Italiens, des Hongrois et des Serbes qui participent à ce projet avec nous.
Alors, vous nous parliez d'une plateforme. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme ? Elle permet justement de lancer des appels à projets au niveau européen ?
Oui. Alors, la plateforme eTwinning, c'est une plateforme qui est créée pour les professeurs de toute l'Europe pour connecter les écoles avec des projets soit à distance, soit comme nous, quand on a la chance d'avoir l'accréditation Erasmus. C'est un projet à distance auquel se rajoutent des voyages et des rencontres.
Alors, ce projet, comment on le bâtit avec les équipes pédagogiques pour qu'il soit un succès comme celui-là ? Et puis après, on parlera un peu plus du projet en lui-même.
Alors, quand on a l'accréditation Erasmus+, on peut organiser une visite préparatoire. Donc en fait, nous, on avait proposé voilà, un cadre très large en disant ce qu'on avait envie de faire. Une fois qu'on a trouvé les partenaires, on a organisé une rencontre. Donc en juin 2022, les professeurs sont tous venus au Collège Les Colibères en Vendée. Et donc on a eu 3 jours de réunion où on a pu vraiment voilà, créer le cadre de toutes les activités qu'on allait faire à distance et aussi déjà fixer des dates et des objectifs sur toutes les rencontres que nous allions faire, avec bien évidemment la plus grande rencontre qui sera en mai 2024 ici en Vendée avec tout le monde qui vient nous voir.
Alors qu'est-ce que c'est que ce projet exactement ? Qu'est-ce que vous allez y faire ? Vous allez en fait faire se rencontrer sur des terrains de sport des élèves venus de toute l'Europe ?
Alors, il y a de ça, mais c'est quand même un peu plus complexe. C'est-à-dire, on a une première année où en fait, on fait vraiment découvrir l'olympisme aux élèves avec des activités à distance. L'olympisme et aussi le paralympisme, hein, puisque mm-hmm. par exemple, en ce moment, les élèves ils sont en train de travailler à distance pour essayer de rendre les sports plus inclusifs. Voilà, de passer de ce qu'ils connaissent bien à comment adapter et pouvoir faire ce sport tous ensemble. Donc voilà, il y a toute cette réflexion qui se fait à distance. Et puis, quand on se rencontre, ben, on met en application. Donc à chaque rencontre, on a décidé tous ensemble qu'il y aurait des jeux traditionnels pour découvrir voilà les spécialités locales
des différents pays,
de nos pays. Et puis, il y a aussi voilà les sports qui sont populaires dans chaque pays. Donc, par exemple, quand on va aller en Hongrie au mois de juin, ben, on va faire du water polo, ce qui pour nous est complètement étranger, mais pour eux, c'est vraiment un sport voilà, du quotidien.
Donc, chez nous, c'est plutôt le football. Hein, tous les jeunes jouent au football et en Hongrie, bien, c'est le water polo.
C'est ça. Et d'ailleurs, l'école dans laquelle on va aller, qui est une école très rurale, voilà, une heure de Budapest, mm-hmm. eh ben, elle a sa propre piscine.
Ah oui, quand même.
Ce qui est quand même rare chez nous.
C'est ce qui est rare dans les établissements scolaires. On a déjà du mal à avoir des fois des craies et des crayons et des tableaux interactifs. Non, j'exagère. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans la culture locale. Et donc, si on a un terrain de foot dans un établissement scolaire, eh bien, chez eux, ils ont une piscine. Qu'est-ce que va vous perdre? Comment ce projet s'inclut-il dans le programme scolaire des élèves? Parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait aussi une dynamique pédagogique.
Oui. Alors, nous, au collège, on a une option LCE, qui est langue et culture européenne. Donc, le fait de rencontrer d'autres cultures européennes, ça s'inscrit pleinement dans cette option. On a décidé aussi d'ouvrir ce projet aux élèves qui participent à l'association sportive du collège. Mmh. Donc voilà, on n'est pas dans le cadre tout à fait de la classe, mais on est dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Ça permet aussi d'inclure des élèves qui sont un petit peu moins scolaires, qui ne pourraient pas tenir 2 heures par semaine en plus, et de les raccrocher à l'école. Ensuite, tout se passe en anglais. Donc forcément, quand on communique réellement dans des situations réelles,
on
ne peut pas mieux comme apprentissage, hein, oui. Et puis ensuite, y a toutes les valeurs citoyennes, les valeurs de l'Europe, à faire découvrir d'autres cultures, mais aussi, on a des moments dans ce projet où on va rencontrer des eurodéputés, où on va rencontrer des associations locales, comme ici, nous, on travaille beaucoup avec Europe Direct Vendée, et ils vont faire le lien avec le monde du sport. Donc, comment est-ce que l'Europe, elle agit pour nous au quotidien sur le sport? Et ça, c'est des choses que les élèves découvrent. Et c'est aussi une façon pour eux de se rendre compte que l'Europe, c'est chez eux.
Alors, je suppose une grande fierté à la fois pour l'établissement, pour les élèves, pour les professeurs et pour vous, Gaëlle, qui avez porté ce projet. 10 000 euros de la Fondation Hippocrène, ils vont servir à quoi? Financer les voyages, justement?
Alors, les voyages, pour nous, à l'étranger, non, parce qu'ils vont être financés par l'accréditation Erasmus+. En fait, ce qui est juste plus compliqué, c'est de financer l'accueil pour que nous, nos élèves, ils puissent faire des choses ici. Mmh. En fait, ils vont servir à ça, ces 10 000 euros, notamment parce qu'on est dans une zone très rurale. Donc, il faut toujours se déplacer, il faut des cars, ce qui coûte cher. Donc,
aujourd'hui, là, ça coûte beaucoup plus cher, oui.
On va pouvoir aujourd'hui imaginer l'année prochaine des Jeux Euro-Olympiques à Saint-Michel-en-Lerme, avec de belles activités. On aimerait bien réussir à ce qu'il y ait un vrai village olympique avec tous les élèves qui logent au même endroit, y compris les nôtres, même s'ils sont à 2 pas de la maison.
Écoutez, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Gaëlle Martin. Félicitations encore à vous pour ce Grand Prix de la Fondation Hippocrène.
Merci.
Nous, on continue tout de suite notre émission avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, je suis donc avec Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Cette semaine, la question de la dette revient au premier plan dans le discours de nos hommes politiques et après la période de Covid qui a considérablement aggravé notre taux d'endettement, le gouvernement préparerait, dit-on, une ligne budgétaire pour ramener notre déficit public sous la fameuse barre des 3% et ce, dès 2027.
Oui, je pense que vous faites aussi allusion probablement à l'abaissement de la note de la France par Fitch.
Ça, c'est possible.
Donc, on a finalement assez peu parlé ces derniers jours. Quelques commentaires par-ci, par-là, comme si le classement de ces agences de notation n'avait finalement pas grand intérêt. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Souvenons-nous de la fameuse perte du triple A par l'agence Standard & Poor's en 2012, qui avait fait trembler toute la classe politique et peut-être même, en tout cas c'est ce qu'on dit, contribuer à faire perdre l'élection présidentielle à Nicolas Sarkozy.
Et pourtant, le taux d'endettement de la France est réellement abyssal. Hein.
Oui, alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Je vous les rappelle, en 1982, la France affichait moins de 300 millions d'euros de dette. Déjà à l'époque, le ministre des Finances affirmait qu'on ne pouvait plus emprunter car il n'y avait plus d'argent. Las. En 2005, la barre des 1 000 milliards d'euros de dette était franchie. L'on se souvient des déclarations de certains banquiers qui s'inquiétaient de voir la France s'enfoncer peu à peu dans un endettement chronique. 7 ans plus tard, la dette avait encore grimpé à 1 700 milliards Et en 2022, la crise du Covid étant passée par là, nous comptons, tenez-vous bien, 1300 milliards de dettes supplémentaires.
1300 milliards, d'où le propos du président de la République en marge de sa visite en Chine et les mesures de restriction qui nous sont annoncées.
C'est en tout cas l'idée. Cela dit, sortir de cette culture de la dépense et de faciliter en quelque sorte de la dette va être très difficile à stopper. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit à cette antenne, la dette n'est pas mauvaise en soi, elle peut même être juste. Elle est d'ailleurs intrinsèquement liée à la nature humaine, car nous naissons tous avec une dette. Nous héritons d'une culture qui s'est forgée au cours des siècles par le travail et le sacrifice de nos ancêtres. Nous héritons d'un patrimoine génétique, nous héritons d'une famille. Nous sommes donc tous endettés dès notre naissance. Mais si cette dette est un don, elle nous oblige. C'est un bien commun dont chacun doit se sentir responsable, mais qui ne doit pas devenir lourd au point d'écraser sous son poids notre liberté et notre épanouissement.
Et c'est donc ça qui nous menace, Pierre ?
Lorsque l'on regarde les choses froidement, les chiffres sont terrifiants. 3000 milliards de stocks de dettes, 270 milliards à emprunter cette année, en 2023, 51,7 milliards d'intérêts à payer. C'est énorme. Alors, je me garderai bien de jouer les Cassandres, mais lorsque le président de la République nous explique qu'à un moment donné ou à un autre, on sera pris à la gorge par le système financier et que les Chinois et les Américains nous diront « on ne nous finance plus », il n'a pas tout à fait tort. La vraie question qui se pose, quelle est la volonté politique ? Qu'y a-t-il derrière ces déclarations ? Quelles perspectives on se donne ? Et quelle est la vision de nos politiques au-delà du quinquennat ? Et je crois que c'est là qu'est l'enjeu. Et c'est surtout là qu'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Les temps des déclarations d'intention, des grandes incantations et des punchlines, comme on dit, sont finis.
Merci beaucoup, Pierre Collignon, de nous avoir rappelé combien la dette pouvait être juste, mais qu'il ne fallait pas en faire n'importe quoi et qu'elle pouvait être aussi un enjeu géostratégique et géopolitique. Nous, on continue en musique. On en a pris l'habitude juste après la chronique des EDC. Et puis, on se retrouve avec tous nos invités pour évoquer l'année européenne des compétences et plus largement, les compétences en Europe, quelle mobilité européenne pour les travailleurs, quelle mobilité européenne pour la recherche. C'est ce qu'on va voir avec tous nos invités. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après dans le dossier de l'Écho des Solutions. Not in time. C'était Always on a Run, interprété par Yudsek, un des artistes invités à Europavox, un festival soutenu aussi par la fondation Hippocrène et qui se passe depuis de nombreuses années à Clermont-Ferrand fin juin, début juillet, et auquel je vous invite très largement à aller. Et on le découvrira d'ailleurs très prochainement dans un de nos 7 minutes pour changer le monde. Mais là, on commence et on continue tout de suite avec notre dossier de l'écho des solutions qui est consacré aux compétences et à l'année européenne des compétences.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine qui est consacré à l'année européenne des compétences qui prend sa place dans le mois de l'Europe. On est à quelques jours de la fête de l'Europe. Et puis il prend aussi sa place dans la politique de cohésion de l'Union européenne, un programme qui a pour ambition de créer 1,3 million d'emplois. Et pour ouvrir ce dossier, eh bien, j'ai la joie, l'honneur de recevoir la chef de la représentation de la Commission européenne en France, Madame Valérie Drézé-Humez. Bonjour Madame.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc de passage à Nantes. On vous enregistre à l'Ifremer alors que vous inaugurez un nouveau bâtiment qui va servir à la recherche scientifique autour de la mer, des océans. Et on en saura un petit peu plus avec un de nos autres invités qui nous évoquera justement la place des compétences et du partage de compétences en Europe avec l'Ifremer. On va parler cette année donc des compétences, de l'année européenne des compétences qui a été déclarée année européenne juste après l'année européenne de la jeunesse. Avant de rentrer peut-être plus dans le détail, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on entend par compétences ? Parce qu'il y a les compétences, les hard skills comme on dit, et les soft skills. Est-ce que c'est tout ça les compétences ?
Effectivement, c'est tout ça. L'idée, c'est d'avoir les moyens de nos ambitions européennes. On a beaucoup parlé d'indépendance et d'autonomie. Effectivement, si nous avons des objectifs, par exemple, de fabrication européenne de microprocesseurs, il faut les personnes pour le faire, pour savoir les utiliser, pour savoir les designer. Et donc, c'est des compétences clés qui sont un maillon indispensable, vraiment, à une autonomie européenne, à une économie solide aussi. Mmh. Et bien sûr, ce que vous disiez, la dimension sociale, de permettre de créer des emplois et qu'il y ait une bonne correspondance entre les emplois et les nécessités économiques. Sinon, finalement, ça n'intéresse personne.
Alors, on voit bien que les compétences, bah, évidemment, elles touchent un petit peu tous les niveaux. 1,3 million d'emplois. Comment cette année européenne des compétences peut-elle permettre de répondre à cette ambition, alors qui, peut-être à l'auteur de la France, semble énorme, n'est peut-être pas si énorme que ça à la hauteur de l'Europe. Elle pourrait être plus.
En la matière, je crois que tout le monde sera d'accord pour en vouloir toujours plus. Non, ce qui est important, c'est d'abord de permettre d'être clair sur la cartographie de nos besoins de compétences. Mmh. On le fait évidemment souvent au niveau national, c'est important de le faire au niveau européen, d'abord parce qu'on a un marché unique, y compris sur la libre circulation des personnes, une importance des mobilités, et d'abord il faut connaître un petit peu le terrain, savoir ce qui est nécessaire, aussi ce qui est disponible. Une formation qui peut exister dans un État membre ne peut-être pas aussi développée dans un autre État membre. Donc, le faire savoir, le faire connaître, c'est un des premiers objectifs de cette année européenne des compétences, de mutualiser toutes ces dimensions. C'est un premier pas, il faut déjà connaître, savoir où on est, savoir ce qui existe. Ensuite, effectivement, il faut faciliter cette mobilité pour que cette congruence, finalement, entre les besoins identifiés puisse se faire. Et au niveau européen, ce qui est important, c'est d'avoir une question de reconnaissance des diplômes, de reconnaissance des micro-qualifications qui soit beaucoup plus importante.
Au niveau des diplômes, je veux dire, la grande réforme LMD de ces 10 dernières années y a déjà fortement contribué et a justement permis ce premier pas de la mobilité pour permettre à des étudiants de faire 2-3 semestres en France, un autre semestre dans une université et tout ça avec une reconnaissance. En revanche, vous parliez justement des micro-compétences. Et je pense à quelque chose qui est très franco-français, le BAFA, le BAFD aujourd'hui, c'est très micro-français. Il n'y a pas peut-être d'équivalent européen. Et pourtant, aller s'occuper de jeunes dans d'autres pays d'Europe quand on est jeune étudiant, ce serait un énorme levier pour ces mobilités et cette mise en avant des compétences européennes.
Tout à fait. Vous signalez surtout le corpus universitaire. Mais si on prend l'extension extrême d'Erasmus à tous les types de travail et tout au long de la vie, c'est important aussi que cette reconnaissance s'applique à ces domaines. On a vu par exemple une explosion des Erasmus au niveau des apprentis. C'est important que la spécificité de certains métiers soit bien connue dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne pour que cette mobilité puisse se faire de manière facile, hein, parce que faut pas que ça reste juste lettre morte. Donc ça va être un moyen aussi d'être sûr qu'il y a une meilleure connaissance de ces différents métiers et des passerelles, je dirais, administratives qui sont absolument facilitées.
C'est ça. Alors la cartographie, c'est passionnant. Demain, je me dis, je suis étudiant, je veux faire ce métier, par exemple, sur les nouveaux métiers. On pourra en parler tout de suite après, parce qu'il y a des métiers qui recrutent plus, des métiers qui vont dans le pot. Bon, on va pas parler du numérique, des métiers de la santé, de la protection des personnes, mais il y a aussi les métiers de l'environnement qui aujourd'hui pointent le bout de leur nez avec des nouveaux métiers. Comment aujourd'hui, je suis un jeune étudiant, j'ai envie d'aller faire mes études au Danemark parce qu'il y a la filière. Comment je la repère? Est-ce qu'il faut absolument passer par les universités? Cette cartographie, est-ce qu'elle est grand public et je peux y aller? Est-ce qu'il y a une facilitation pour aller s'inscrire dans une université étrangère, bien qu'on soit ressortissant français? On a toujours l'impression qu'il y a toujours entre le joli dessin qu'on nous fait et la réalité pratique, des complexités quand même qui sont parfois insurmontables ou qui peuvent sembler insurmontables.
Alors le premier niveau, c'est l'information de base, je dirais, effectivement dans le cadre de l'année européenne des compétences, par le site dédié à cette année européenne des compétences, il y a une foison d'informations pour effectivement repérer la formation dont vous avez rêvé tout au long de votre vie, elle est peut-être là et on va la révéler. Effectivement, après, je dirais que c'est souvent une affaire de plusieurs leviers. Quand on veut monter sa mobilité, son projet, un premier interlocuteur, ils sont sur tous les territoires des États membres, ce sont les centres Europe Direct qui font beaucoup d'accompagnement à la mobilité. Il y en a un à Nantes, à Europa Nantes, donc je peux en témoigner. Et c'est important après de préciser son projet effectivement avec des gens qui connaissent bien et qui vont être là pour épauler les jeunes et les moins jeunes au long de ce parcours. Et il faut utiliser toutes ces ressources.
Comment vous appelez ce centre que je découvre avec vous, que je ne connaissais pas? C'est souvent d'ailleurs les problématiques avec certaines politiques européennes, et je dis pas ça à votre décharge, hein, mais je dis que souvent, je les appelle souvent, l'Europe, c'est ce grand invisible visible partout. Comment on arrive à rendre justement visible ce centre que je ne connaissais pas? On va le faire peut-être par le biais de cette émission, d'ailleurs.
Le premier niveau de rendre visible, c'est ce que nous faisons à la représentation de la Commission européenne en France. Effectivement, et c'est notamment pour ça que je suis aujourd'hui à l'IFREMER, puisqu'il y a eu un certain nombre de financements européens, et c'est important de montrer aux citoyens de la région et plus loin ce que fait l'Europe. Elle est là, c'est concret, c'est tangible, ça permet de répondre à des objectifs qui sont importants sur le terme de l'emploi, de l'économie, du social, de l'environnement. Je dirais, il y a une multiplicité d'objectifs. Et puis, à un niveau un peu plus proche, hein, on a, par exemple, en France, 50 centres Europe Direct qui sont cofinancés par la Commission européenne et qui sont le premier guichet vers qui, je dirais presque en tournant au coin de rue, il n'y a pas à chaque coin de rue, hein, je vous rassure, avoir des informations, que ce soit des informations génériques ou, comme je le disais, pour vous aider très concrètement à monter un projet de mobilité, que ce soit à titre personnel ou rechercher des projets, des partenariats, ce type de choses au niveau, par exemple, de start-up. Donc, ça existe, c'est tout prêt. Et donc
c'est le premier guichet de l'Europe une question, un besoin, je suis une association, voilà. Je veux créer des liens avec d'autres associations à travers l'Europe, je suis une entreprise, je voudrais avoir un financement européen parce que je pense que mon projet, je vais dans ces centres.
Exactement. Directs. Non seulement c'est de l'information qui est disponible, mais c'est surtout des personnes. Et c'est toujours important d'avoir un contact.
Alors aujourd'hui, sur ces compétences, sur ces mobilités, on le sait bien, il y a des pays qui vont vous proposer des formations, il y a des pays qui vont avoir des besoins, il y a des pays qui vont être en plein emploi et qui pourraient donner, j'ai envie de dire, de la main-d'œuvre, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit ouvrière ou qu'elle soit de cadre à d'autres pays. Très souvent, mobiliser le monde de l'entreprise, leur dire c'est possible, allez-y, n'ayez pas peur. Quels sont pour vous les leviers à actionner pour aller, je dirais, à cette étape qui est de dire allez travailler ailleurs. L'Union européenne, maintenant, on n'y est pas encore totalement, mais c'est une grande culture, un grand sentiment européen. Comment on peut se dire à un entrepreneur, je vais embaucher des salariés qui viennent d'autres pays de l'Union?
Un très fort levier, souvent, c'est l'exemple. Une entreprise embauche quelqu'un qui a fait une mobilité Erasmus+ ou autre, je dirais l'idée va germer à un certain moment et l'important c'est de la faire prospérer. Alors bien sûr, je reviens au centre direct, on peut avoir aussi une information aux entrepreneurs pour pousser cette dimension, mais je pense que l'exemple fonctionne très bien aussi l'extension dont je parlais d'Erasmus+, fait que très régulièrement, surtout dans des PME par exemple, on va trouver des profils qui ont fait de l'apprentissage ou de l'alternance et qui vont être plus à l'écoute et disponibles pour ce type de choses.
Et alors vous le disiez aussi, Valérie Drézé-Humez, la question des apprentissages, la question de l'exemplarité dans le monde de l'entreprise est quelque chose de nécessaire. Et c'est vrai que aussi le premier levier peut-être c'est Erasmus+, les stages, les apprentissages, parce que très souvent, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un baromètre que vous avez publié, très souvent quand on est dans un pays, on a envie d'y rester parce que finalement on découvre sa culture, on découvre ses habitants et puis finalement on s'y enracine.
Oui, c'est possible. Ou alors on a le goût d'aller ailleurs. Mais en tout cas, c'est finalement une petite graine qui est plantée. Et puis l'important, c'est d'avoir les conditions pour la faire prospérer. Et très clairement, par exemple, si on parle aux acteurs économiques, on voit que lorsqu'ils examinent des CV, le fait que quelqu'un ait fait ou pas une mobilité est un point très fort, qui est totalement valorisé. Et d'ailleurs, l'accès au premier emploi est beaucoup plus rapide pour les personnes qui ont fait une mobilité.
Alors, je sais que vous êtes pressé parce que vous continuez votre parcours. Et vos visites. Deux questions. Les métiers en tension, on les connaît aujourd'hui et il y a des partenariats qui sont signés avec différentes grandes fédérations, grands acteurs, la santé, le numérique et l'environnement.
Effectivement, il y a beaucoup de métiers en tension. Trois quarts des entreprises, hein, actuellement nous disent qu'ils ont effectivement des difficultés à recruter. Encore, il y a une quinzaine de jours, la Commission européenne a fait une proposition sur la cybersécurité et a identifié qu'on est à peu près un besoin de 500 000 personnes compétentes en matière de cybersécurité. Alors dans ce domaine particulièrement, mais dans d'autres que vous citiez, nous créons une académie européenne de la cybersécurité avec toujours cette idée de favoriser la connaissance des formations, leur certification aussi, hein, ce qui est très importante pour que nous ayons vraiment à disposition au niveau européen des personnels dont nous avons besoin dans un domaine particulièrement stratégique comme la cybersécurité, mais dans beaucoup d'autres.
Merci beaucoup Valérie Drézé-Humez d'avoir été une de nos invitées du dossier de l'éco des solutions. Nous on fait une micro-pause et on se retrouve justement avec le directeur de l'IFREMER pour évoquer justement cette question, comment l'IFREMER se positionne dans ce partage des compétences européennes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Et on continue notre émission avec Philippe Gultecker, qui est directeur scientifique, directeur surtout de l'IFREMER. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors on vient d'évoquer avec Madame Drézé-Humez le pourquoi du comment de cette Europe des compétences. Vous êtes directeur de l'IFREMER et vous avez accueilli hier justement Madame Drézé-Humez dans vos locaux pour l'inauguration d'un bâtiment. On a parlé un peu d'Europe. En quoi d'ailleurs, pour commencer, Philippe, l'IFREMER a-t-elle un lien particulier avec l'Europe au-delà des compétences?
Alors, en fait, pour nous, l'Europe... C'est un élément essentiel, que ça soit en termes d'activité de recherche comme d'activité de soutien à l'élaboration des politiques publiques. Donc, en termes de recherche, c'est à la fois un guichet, c'est à la fois des coopérations internationales, puisque la recherche, à l'heure actuelle, elle est organisée, certes, au niveau national, mais principalement au niveau international. Donc, on développe des collaborations et l'Europe, la Commission européenne, est un outil de facilitateur pour l'élaboration de ces coopérations. Et par ailleurs, on a effectivement, au niveau en termes d'appui aux politiques publiques, on a différentes directives qui sont mises en place dans les pays membres. Donc, nous, on est impliqués directement sur la mise en œuvre de certaines directives. Et par ailleurs, on contribue dans la production de données scientifiques et d'informations scientifiques à certaines politiques publiques. Hein. On peut citer la politique commune des pêches, par exemple, qui est donc de nature européenne et pour lesquelles, par exemple, la définition des quotas de pêche se fait à cette échelle. Mmh. Donc, il est particulièrement important d'avoir des relations étroites avec...
Et privilégiées. Et juste avant de rentrer sur cette question des compétences, l'IFREMER au niveau européen a des homologues dans d'autres pays de l'Union?
Alors, on a une structuration qui est assez particulière. Alors, on a effectivement des instituts qui sont partenaires. On peut avoir des relations bilatérales avec certains instituts comme l'AWI en Allemagne. Mmh. Mais on est assez original au niveau européen dans la mesure où on gère également la flotte océanographique française. Mmh. Donc, on a quand même une configuration assez particulière, mmh. assez unique au niveau européen, voire au niveau international.
Et qui vous donne suffisamment
notre périmètre d'activité.
Alors, parlons un petit peu de ses compétences, on l'a évoqué donc avec Madame Drézé-Humez il y a quelques instants. Comment ça se passe dans un institut comme l'IFREMER? Vous êtes un EPIC, c'est-à-dire un établissement public industriel, à vocation industrielle mais aussi commerciale. Donc vous avez ce double statut qui est à la fois un statut public et un statut d'ouverture sur des partenariats privés. Donc vous accueillez aussi des stagiaires, vous accueillez des chercheurs et vous n'accueillez pas que des étudiants chercheurs qui viennent de France, Philippe.
Tout à fait. Alors, au niveau de la recherche, effectivement, dans la mesure où on a des projets européens ou des partenariats, on accueille des étudiants à partir du niveau master, doctorant, post-doctorant. On va rechercher, par des appels à projets, on va rechercher des compétences à l'extérieur, celles qui peuvent nous manquer. Et par ailleurs, on a du partenariat avec le secteur privé au sens industriel du terme. On a notamment une direction de l'innovation au niveau de l'IFREMER, qui permet de faire le lien entre les résultats de la recherche, tout ce qu'on peut produire en matière de recherche, et ce qui peut être valorisé par le secteur industriel.
Mmh. Alors, est-ce que justement aller à la recherche de talents européens sur l'ensemble des pays de l'Union européenne apporte de la complexité dans le management? On est dans une émission économique, les cultures sont différentes, les personnes sont différentes, et il faut manager toute cette petite équipe.
Alors, on peut dire que c'est un défi, même si, dans le domaine de la recherche, on va chercher des compétences, mais on a souvent des outils en commun, mmh. des méthodes de travail en commun, donc on va pouvoir aller rechercher des compétences complémentaires. Mmh. Bon, clairement, dans le domaine de la recherche, on s'exprime souvent en anglais. Rien que sur le centre de Nantes, sur les dernières années, on a accueilli à peu près une trentaine de nationalités, de personnalités venant de l'étranger, que ce soit au niveau européen ou plus loin, au-delà des frontières européennes. Donc, on va rechercher ces compétences. On essaye d'élargir et d'avoir une complémentarité mmh. au niveau de ces compétences. Mmh.
Et quand on va chercher des talents au travers de l'Europe, est-ce que c'est facile de se séparer de ces talents et de se dire qu'ils vont aller retravailler ailleurs, ou est-ce qu'on a envie de les garder?
Alors, parfois, on a envie de les garder. Effectivement, il y a des compétences qui sont même si on fait de l'acquisition en interne de compétences, hein, mmh. via des plans de formation, mais clairement, il y a des compétences qui sont recherchées. On parle beaucoup, par exemple, à l'heure actuelle, de l'intelligence artificielle, donc on va rechercher des compétences nouvelles. Souvent, pour ces compétences, on cherche à les maintenir. Après, on a toujours les contraintes de masse salariale, de plafond d'emploi et d'équilibre économique au niveau de l'institut.
Est-ce que c'est facile, justement, on évoquait avec Madame Drézé-Humez tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, Erasmus+, et j'en passe, aller chercher des compétences ailleurs qu'en France ou même en France. Aujourd'hui, comment on travaille la marque employeur de l'IFREMER?
Alors, en fait, on a déjà une démarche interne via des appels à projets. Par exemple, on va lancer des appels à projets pour des post-doctorants à l'échelle internationale. Donc, l'IFREMER est reconnu et connu dans le monde entier sur les questions océanographiques et ce qui touche en matière de recherche au niveau océan. Donc là...
Là, c'est pas difficile, c'est les labos qui communiquent entre le projet.
C'est pas difficile. En plus, on est aidé sur l'aspect financier par du partenariat, que ce soit conseil régional, Pays de Loire. Enfin, il y a différentes possibilités. On va pouvoir également développer des bourses de thèse CIFRE, par exemple, avec le secteur industriel. Donc, il y a différentes méthodes et voies pour aller chercher ces compétences et les internaliser. En fait.
Une année européenne des compétences, comment vous regardez ça du point de vue où vous êtes, c'est-à-dire directeur de l'IFREMER?
Alors, nous, enfin, c'est pas nouveau pour nous, même si c'est une année spécifique dans ce domaine-là.
Ouais.
Alors, c'est assez classique pour nous de travailler à cette échelle-là. Donc, on ne voit pas de différence majeure. Alors, on peut citer quand même nos chercheurs vont contribuer à des formations, par exemple, au niveau de Nantes Université sur des masters internationaux et autres. Donc, on a des actions assez récurrentes.
Vous sortez de vos labos pour aller aussi à la rencontre des autres cursus de formation qui peuvent exister sur le campus nantais?
Tout à fait, tout à fait. Oui, ça rentre dans nos activités de formation à la recherche et par la recherche.
Merci beaucoup, Philippe Coulquer, d'avoir été un de nos invités de ce dossier de l'écho des solutions. Je vous propose qu'on fasse une pause dans nos échanges et on retrouvera tout de suite après Michel Catala, qui est, lui, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, qui est directeur d'Alliance Europa. On verra avec lui de quoi il retourne, du pourquoi, du comment, quel lien avec l'Europe, est-ce qu'on connaît suffisamment bien l'Europe et comment on peut aussi, grâce au partage de compétences, faire mieux connaître l'Europe sur nos territoires. Merci beaucoup Philippe Coulquer, bonne continuation à l'IFREMER. Nous on fait cette pause et on se retrouve tout de suite après.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, on retrouve notre dernier intervenant autour de cette question des compétences au niveau européen. Qu'est-ce que ça veut dire entre les hard skills, les soft skills? On a vu au début de cette émission qu'il y avait un certain nombre d'emplois, une métier qui était peut-être plutôt visé, tout ce qui touche la cybersécurité, le numérique, l'environnement, les professions de santé, mais aussi les professions liées à l'enseignement. Bref, autant de compétences qui sont sur nos territoires. Et on continue avec des compétences, on l'a évoqué peut-être un petit peu avec notre invité précédent, avec l'IFREMER, mais avec Michel Catala de l'Université de Nantes, directeur de l'Institut Jean Monnet, qui regroupe, d'Alliance Europa, qui regroupe plusieurs instituts. On va essayer de creuser, de comprendre comment l'Europe peut prendre place à la fois dans la réflexion, mais aussi dans les travaux universitaires. Bonjour Michel Catala.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, expliquez-nous un petit peu l'origine d'Alliance Europa. Quand on a échangé un petit peu en préparant cette émission et puis en allant regardant un petit peu votre site, l'idée d'Alliance Europa, c'était de se dire les chercheurs d'Europe, unissez-vous, travaillons ensemble.
Oui, chercheurs de notre région et à plus grande échelle européenne, voire même d'ailleurs. L'objectif, en fait, c'était de créer un réseau de recherche, mais également de formation et de partenaires de valorisation et d'innovation autour des études européennes, c'est-à-dire l'Europe comme objet d'études, et notamment quand on a créé le programme en 2015, une Europe qui était en crise dans la mondialisation, et on voulait étudier tous les aspects de cette crise et toutes les politiques que l'Europe mettait en œuvre depuis quelques années pour essayer de les surmonter. Donc l'objectif, c'était de rassembler des enseignants-chercheurs, des étudiants à différentes échelles, locales, régionales, nationales, européennes et internationales, parce qu'on a aussi des partenaires canadiens. Et l'objectif, c'était donc de tous travailler ensemble pour monter des réseaux et des programmes de recherche, y compris donc européens, et pour soutenir des formations dont le but était de mieux comprendre l'Europe également.
En effet, parce que je le disais avec la représentante de l'Union européenne en France, l'Europe, c'est cette invisible visible, c'est-à-dire elle est extrêmement présente dans notre quotidien, aussi bien dans de la rénovation énergétique de bâtiments que dans le financement de programmes Erasmus pour permettre à nos jeunes têtes blondes d'aller étudier à l'étranger, pour leur permettre des échanges au niveau des collèges et des lycées. Et on l'a vu dans l'invité éco avec le prix de la fondation Hippocrène Erasmus+, qui permet à des jeunes collégiens de se lancer dans une dynamique européenne du sport en vue des JO de 2024. Cette Europe que j'appelle invisible et visible en même temps, c'est ça que vous avez voulu rendre visible au travers de vos travaux de recherche?
Oui, c'est-à-dire l'idée que finalement nos sociétés vivent de plus en plus à l'échelle européenne et que les problèmes également auxquels nous devons faire face sont également des problèmes qui peuvent être, qui peuvent trouver une solution à une échelle beaucoup plus globale que notre échelle locale et régionale. Donc, réfléchir aux évolutions de l'Europe, c'est aussi finalement réfléchir à notre avenir. Et puis, pas seulement à notre avenir d'ailleurs, parce qu'on étudie aussi le passé, hein. On n'étudie pas que l'avenir, mais en tous les cas, il s'agit bien de se porter sur cette échelle de compréhension plus large. Mmh. Alors effectivement, on le voit, hein, dans toutes nos disciplines, effectivement, les explications sont souvent des explications ou des solutions à l'échelle européenne. Alors, comme vous le dites, elle n'est pas forcément très visible dans le quotidien, en tous les cas pour ce qui est de l'Union européenne. Mais je pense que d'ailleurs, quand vous interrogez la plupart de nos concitoyens, ils sont quand même assez conscients, hein, que l'échelle continentale est souvent la bonne échelle pour trouver des solutions à nos problématiques, qu'elles soient environnementales, sécuritaires, ou quels que soient finalement les problèmes, y compris économiques, ou technologiques, ou les problèmes de recherche.
Alors justement, comment on travaille avec des chercheurs venus de toute l'Europe? On a chacun nos prismes, nos cultures, nos visions du monde. Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour permettre à ces compétences de s'unir pour un travail de recherche commun?
Bah écoutez, dans la tradition universitaire, hein, on a l'habitude de travailler toujours avec des partenaires internationaux, hein, qu'ils soient européens ou d'autres continents. C'est quelque chose d'assez normal. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu l'Union européenne pour le faire. Hein, si je peux me permettre aussi, c'est quelque chose qui est ancré dans les pratiques scientifiques depuis très longtemps. Mmh. Hein, alors certes, autour de la Seconde Guerre mondiale et des années 30, c'était devenu particulièrement difficile. Mais depuis une trentaine d'années, avec la fin de la guerre froide et la mondialisation, on a retrouvé vraiment des travaux à une échelle très très large. Donc ce que nous apporte l'Union européenne, c'est aussi peut-être des moyens supplémentaires, la capacité aussi à trouver des financements supplémentaires pour nos projets, et puis effectivement ensuite la difficulté toujours de créer des réseaux de recherche. Mais vous savez, c'est déjà pas toujours très simple de travailler en pluridisciplinarité à échelle locale, hein, dans la recherche, hein, c'est toujours difficile de travailler entre disciplines différentes et de trouver des terrains de recherche communs. Là, à l'échelle européenne, bah, ça se fait, on trouve des réseaux. Après, il faut déposer des projets, obtenir des financements, et j'allais dire que l'Union européenne, là, nous apporte des moyens, bien entendu, beaucoup plus très importants.
Alors, comment justement, dans ce travail universitaire, justement, on inclut aussi le monde économique, le monde de l'entreprise, qui est aussi un grand pourvoyeur de compétences, de talents, qui très souvent est étudié, mais finalement n'est peut-être pas conjoint aux travaux de recherche?
Bah, écoutez, alors moi je suis dans un domaine où je travaille beaucoup, pas forcément d'ailleurs avec beaucoup d'entreprises, mais on va dire avec le monde socio-économique plus largement, ou les collectivités territoriales, ou les ONG, le monde associatif, etc. Et quand on fait de la valorisation en sciences humaines et sociales, on travaille beaucoup plus largement, j'allais dire, que le domaine de l'entreprise, qui est d'ailleurs pas toujours très simple à
aborder.
À aborder en sciences humaines et sociales, hein. C'est pas toujours. Il y a certaines disciplines des sciences humaines et sociales qui le font mieux que d'autres parce qu'elles sont plus habituées à travailler dans ces domaines-là. D'autres, c'est plus complexe. Mais en tous les cas, dans tous ces projets de recherche, quelles que soient les disciplines, nous sommes obligés, pas forcément de mettre en place des projets de recherche avec le monde socio-économique, mais en tous les cas d'avoir toujours la volonté de valoriser nos recherches, quels que soient nos domaines, dans cette direction-là. Et donc de trouver des partenaires de la société civile, du monde associatif, du monde socio-économique quand c'est possible, pour essayer de les associer, puis j'allais dire de transférer les résultats de nos recherches ou de nos travaux dans cette direction-là. Mmh. Je vous donne un petit exemple, moi, dans Alliance Europa, forcément, pendant la durée de notre programme, il y a eu le Brexit, et ça a été l'occasion, avec la région des Pays de la Loire, avec une école de commerce, l'ESCA, avec les chambres économiques, etc., les chambres de commerce, de mettre en place deux actions autour de la compréhension des conséquences du Brexit pour les entreprises locales et régionales, deux opérations qui avaient eu d'ailleurs pas mal de succès, ce qui nous a permis aussi de montrer qu'il pouvait y avoir des applications pratiques aux recherches, que ce soit en droit, en sociologie ou en économie, sur ces questions.
Alors, vous êtes aussi directeur du Centre Jean Monnet, alors je vais le dire dans le bon ordre, le Centre d'excellence Jean Monnet Unipay, parce que évidemment Jean Monnet, avec la création de l'Europe, avait comme vision d'éradiquer les conflits armés sur le sol européen. Vous connaissez peut-être ou pas, ou vous découvrirez peut-être Dominique Steyler, qui est le titulaire de la chaire de paix économique. Vous pensez que l'économie peut être au service de la paix, Michel Catala ?
Certainement. Maintenant, l'économie ne résoudra pas tout et n'est certainement pas l'unique voie pour mener à la paix. On a bien vu comment les pays européens, ces dernières années, j'allais dire l'Union européenne dans son ensemble, a longtemps cru, depuis la fin de la guerre froide, que le commerce, l'économie, le développement des interactions économiques et commerciales était le plus sûr chemin d'assurer la paix entre les peuples dans le cadre global de la mondialisation. Et ce qui se passe depuis quelques années avec la Russie et avec la guerre en Ukraine et puis également avec l'évolution de nos relations avec la Chine montre que ces interactions économiques, c'est certainement très bien, c'est certainement une voie pour faire la paix, mais ça ne peut suffire. Ça ne peut suffire et force est de constater que quand on a affaire à des pays ou à des puissances qui remettent en cause l'ordre international, ces interactions économiques n'empêchent pas le développement de projets belliqueux. Donc oui, la paix par l'économie, c'est une voie, c'est un chemin qui a bien réussi à l'Europe occidentale, mais dans un cadre géopolitique bien spécifique. Mais ce n'est certainement pas l'ultime ou l'unique voie pour assurer la paix entre les peuples.
Merci beaucoup Michel Catala, merci beaucoup à tous les invités du dossier de l'écho des solutions pour nous avoir ouvert cette réflexion sur la paix, sur les compétences, sur les emplois possibles à travers l'Europe. Nous on continue tout de suite et on se retrouve tout de suite après pour nos 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, 7 minutes pour changer le monde sur le thème de l'Europe. Alors, il s'agit d'Antoine Chabal, président de l'association Les Jeunes Européens. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, le 9 mai, je le disais en tout début de cette émission, le 9 mai, on va fêter, c'est la fête de l'Europe. Savez-vous pourquoi le 9 mai ?
Oui, le 9 mai, c'est une façon de marquer le fameux discours de Robert Schuman du 9 mai 1950. Qui était alors ministre des Affaires étrangères français, qui a prononcé son fameux discours dans les salons de l'horloge au Quai d'Orsay, et qui est considéré comme un des éléments fondateurs de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Et donc c'est une façon de célébrer l'Europe, et pas seulement le 9 mai, mais aussi tout le long du mois de mai.
Et tout le long du mois de mai, hein, puisque le mois de l'Europe a commencé, vous faites partie de ces férus de l'Europe qui savaient pourquoi cette date du 9 mai a été choisie. Et j'espère qu'à la fin de cette émission, tous les auditeurs le sauront désormais. Parlons un petit peu des Jeunes Européens, Antoine Chabal. C'est une association qui a pour vocation de regrouper les jeunes qui sont férus d'Europe et qui ont envie de porter une connaissance, un plaidoyer pour changer un petit peu le fonctionnement de l'Europe d'aujourd'hui ?
Oui, c'est ça. Alors nous, on aime dire qu'on est effectivement une association de jeunes qui s'engage pour la démocratie européenne. Et donc ça passe effectivement par faire de la pédagogie, parler entre jeunes de ce que c'est que la citoyenneté européenne et la démocratie européenne, un peu donner les clés pour aussi peut-être pouvoir s'engager pour le projet européen, faire de l'information aussi et puis faire vivre le débat public sur ces questions-là. C'est d'autant plus important que ça y est, on approche à un an des élections européennes de 2024.
Vous avez le sentiment que les jeunes se sentent européens aujourd'hui. On parle beaucoup de cette difficulté qu'a l'Europe à créer une unité européenne au sens d'une citoyenneté européenne. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à cette dimension européenne? Ou plutôt qu'elle est mise un petit peu à mal, peut-être, parce qu'on en a une vision trop technocratique et peut-être pas assez culturelle, citoyenne et sociale.
Finalement, c'est probablement un petit peu tout ça à la fois. Et précisément parce qu'on essaye aussi de rendre l'Union européenne plus concrète, de montrer aussi en quoi elle est importante sur le quotidien des jeunes et dans toute leur diversité. Il faut aussi envisager les jeunes dans toute leur diversité, c'est ça aussi qui rend évidemment la question un peu plus difficile, mais on sent véritablement un intérêt pour les questions européennes, les jeunes, et pas seulement d'ailleurs, hein, comprennent que ça a du sens de traiter certains sujets à cette échelle, sur les questions d'environnement par exemple, qui évidemment mobilisent beaucoup les jeunes. Donc on sent un véritable intérêt, mais effectivement il y a encore du chemin à faire, et pour plein de raisons, peut-être parce que effectivement l'Europe a besoin, l'Union européenne a besoin d'évoluer de façon un peu plus démocratique, en étant plus proche de ses citoyens, c'est ce pour quoi on milite, et peut-être que voilà, là on arrivera à intéresser davantage les jeunes, mais encore une fois, on sent qu'il y a un véritable intérêt quand même, une véritable curiosité aussi de la part des jeunes.
Alors justement, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, aux jeunes européens? C'est quoi vos actions? Il y a des sections locales, vous vous retrouvez, vous parlez Europe, qu'est-ce que vous faites?
Alors effectivement, les jeunes européens en France, c'est 30 antennes et sections locales, un petit peu partout en France. Plus de 1200 bénévoles qui, partout sur le territoire, encore une fois, déclinent toutes nos activités. Nos activités principales, c'est d'abord, un petit peu comme je le disais, la pédagogie. On a créé un programme qui s'appelle l'Europe par les jeunes en 1999. Et l'idée, c'est vraiment, par les jeunes et pour les jeunes, parler d'Europe, de citoyenneté, de démocratie, donner les clés aux jeunes pour qu'ils puissent mieux comprendre les questions européennes, s'engager peut-être aussi pour le projet européen. Et ça, on le fait dans les écoles, mais pas seulement. Partout où sont les jeunes, finalement, on a notamment une déclinaison qui s'appelle de ce programme qui s'appelle Europe en vacances, où on va voir les jeunes sur leur lieu de vacances pendant l'été. Donc ça, la pédagogie, c'est une partie importante de nos activités, mais aussi de l'information. Mmh. On a notre propre média qui s'appelle Le Taurillon, qui est essentiellement en ligne, mais on a aussi des éditions papier locales à l'occasion. Et des membres bénévoles de l'association publient quotidiennement des articles sur des sujets d'actualité, en lien toujours avec les questions européennes, mais ça peut être des questions de culture, de sport, et plein de sujets différents. Mmh. Et puis ça passe aussi par le fait de faire vivre le débat aussi sur ces questions-là, et donner des espaces aussi pour les jeunes pour débattre et se poser les questions en lien avec l'Union européenne. Et puis peut-être pour finir de façon assez transversale, on a aussi à cœur de travailler avec les élus locaux, avec les communes. Je le disais, on s'engage pour la démocratie européenne. Pour nous, la démocratie européenne, c'est aussi et avant tout peut-être la démocratie locale. Et donc avec nos partenaires, le mouvement européen et l'Union des fédéralistes européens, on a lancé assez récemment, en 2019, le label Ville européenne pour faire ce travail d'information, de pédagogie, mais aussi valoriser et engager et encourager les communes
engager et encourager les communes dans cette démarche. On a parlé tout au long de cette émission de la question de la mobilité. On sait que le Erasmus, hein, qui a plus de 35 ans maintenant, qui s'est transformé en Erasmus+, est au cœur de la mobilité des jeunes. Quelle place elle prend dans votre plaidoyer, Antoine Chabal?
Alors, la question de la mobilité, c'est une place essentielle et très importante depuis toujours, hein, dans notre plaidoyer. C'est à travers la mobilité des jeunes, mais pas seulement, finalement, de tous les acteurs, qu'on se sent véritablement européen, mais qu'à travers ça, on acquiert aussi davantage de compétences, on fait des rencontres. Donc c'est vraiment un aspect essentiel de notre plaidoyer, et donc on encourage évidemment à toujours davantage de financement, mais aussi de développement des programmes de mobilité européens, Erasmus, mais pas seulement. Et encore une fois, pour les jeunes, mais pas seulement, souvent on réduit un petit peu Erasmus à la mobilité des étudiants, mais c'est aussi bien plus large que ça et ça mériterait d'être davantage connu. Et puis par ailleurs, Erasmus+, puisqu'on en parle, c'est pas seulement les mobilités, c'est aussi un programme qui soutient des projets de la société civile, et donc c'est aussi important pour des organisations comme les nôtres d'avoir un soutien financier de la part des institutions européennes pour avoir des projets de mobilité, mais aussi de formation, d'échange de jeunes, et donc aussi contribuer à notre travail d'information, de pédagogie.
Merci beaucoup Antoine Chabal pour cet éclairage sur ce que vous faites aux jeunes européens. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans l'Écho des solutions. La semaine prochaine, eh bien, on sera en direct. On sera depuis le Puy du Fou pour célébrer les 40 ans de RCF, et je vous inviterai à découvrir en quoi la Vendée est une terre d'entrepreneurs avec tous nos invités depuis le site du Puy du Fou. Voilà, c'est pour la semaine prochaine, c'est le programme. D'ici là, vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur rcf.fr, bien évidemment, ainsi que toutes les rubriques, l'invité éco, les 7 minutes pour changer le monde, le dossier, tout ça, c'est sur rcf.fr. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon week-end du 1er mai, bonne fête de l'Europe le 9 mai. À la semaine prochaine. Au revoir.